Vous écoutez On lit pour vous.
Il recycle à la planche. Un texte de Sarah Champagne, paru le 15 décembre 2025 dans la presse. Saint-Ligory. L'idée est venue à Nicolas Loisel lors d'un voyage au Costa Rica, où il était allé trouver un sens à sa vie après une peine d'amour. En observant les surfeurs en équilibre sur leur planche au large, il s'est demandé comment ils pouvaient s'exercer hors de l'eau. Sa solution? Des planches d'équilibre fabriquées avec du bois détourné des rebuts. Depuis, le jeune entrepreneur montréalais fait une tournée hebdomadaire d'entreprise pour récupérer des retailles de merisier baltique qu'il transforme en planches, vendues aux amateurs de sport de glisse, aux planchistes, aux cliniques de réadaptation, aux centres de yoga et à tous ceux qui veulent faire des exercices d'équilibre. Le concept consiste à se tenir debout, puis à se balancer de gauche à droite sur la planche qui repose sur un rouleau perpendiculaire. Pas si simple, a pu constater la presse après un essai. Cette année, se sont écoulées depuis le fameux voyage. Nicolas Loisel a quitté son emploi en marketing chez un brasseur de bière. Son entreprise, Montréal Balance Board, Balance ta vie, trouve aujourd'hui des adeptes jusqu'à Vancouver. Un lundi matin, l'entrepreneur accueille la presse devant la porte de déchargement d'une manufacture de matrices à découpe à plat du boulevard Hymus, à Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île de Montréal. Tout en enchaînant les allers-retours vers sa camionnette, avec des panneaux de contreplaqué sous le bras, il explique qu'il va jusqu'à Toronto pour acheter des retailles de bois. Les manufacturiers, c'est ma mine d'or. Ça me garde en forme de procéder à la collecte, sauf pour celle de Toronto que j'effectue avec un partenaire routier, lance-t-il. Il a fabriqué sa première planche, qui fait 12 pouces sur 60, chez lui, pour son usage personnel. Il a offert une démonstration lors d'une soirée entre amis, et c'est ainsi qu'il a reçu ses premières commandes. Il a fabriqué près de 3000 planches, une à une, dans des ateliers participatifs, dont l'atelier Clark sur l'avenue de Gaspé à Montréal. Quand la demande a bondi avec la pandémie, il s'est rendu à l'évidence. Il lui fallait un ébéniste. Chez l'ébéniste. Une fois sa camionnette chargée, nous accompagnons Nicolas Loisel jusqu'à Saint-Ligory, dans la Naudière, chez le Petit Prince ébéniste. Dans cet atelier, on restaure des meubles en bois, des armoires et comptoirs de cuisine, et on conçoit et fabrique sur mesure. Pourquoi jeter quand on peut rénover est l'une des devises de l'entreprise. La propriétaire Annick Paré, ébéniste professionnelle, explique que la fabrication des planches a été peaufinée avec les années. Les planches sont conçues à l'équerre, une à une. Il ne faut pas qu'elles soient vernies, sinon la surface serait trop glissante. Elles sont teintes, sablées, mais pas trop. Elles sont antidérapantes, mais pas trop. On utilise une toupie. J'ai deux gars qui travaillent 3 jours par semaine à la fabrication des planches d'équilibre, détaille Mme Paré. Benjamin Miro, l'un des ébénistes, offre une démonstration du travail de ponçage et de découpe de la planche. Des supports à planche sont aussi fabriqués, dont un modèle à visser au mur. L'un des casse-têtes de la conception a été le rouleau sur lequel on dépose la planche. Au départ, il n'avait rien d'écologique. C'était ni plus ni moins un tuyau de plomberie ABS recouvert de caoutchouc avec des rondelles de bois pour boucher les extrémités. J'ai longuement étudié le marché et, aujourd'hui, les rouleaux sont en liège. Ce n'est pas encore parfait. Ils proviennent du Portugal ou de la Chine, précise Nicolas Loisel. Grâce à son innovation écologique, il est devenu un ambassadeur officiel de la Société d'État Recyc Québec pour souligner l'originalité de son entreprise, l'inspiration qu'elle peut insuffler et son fort potentiel de reproductivité, indique Laurie Gagné-Sans-Façon, responsable des communications à la société. En 2023, 716 000 tonnes de bois se sont retrouvées à l'élimination selon les plus récentes données de Recyc Québec. Au Québec, l'École d'ébénisterie d'art de Montréal, EEAM, offre de courtes formations et un programme collégial de 3 ans en partenariat avec le Cégep du Vieux-Montréal. Les initiatives pour réutiliser le bois restent rares, selon Jessica Beauchemin, responsable des communications à l'EEAM. La tendance est plutôt aux bois indigènes, dit-elle. Récupérer le bois comporte ses défis, poursuit-elle. Pour les planches d'équilibre, ce sont des retailles de bois avec peu de manutention. Avec le bois récupéré, il faut souvent enlever la finition, les clous. Ce qu'on voit en ce moment, ce sont des ébénistes qui se tournent vers du bois de chez nous. Au lieu de l'acajou, ils vont choisir du cerisier, du noyer, du chêne, de l'érable. Et les procédés traditionnels reviennent avec du vernis à l'eau, des huiles naturelles. C'était « Ils recyclent à la planche », un texte de Sarah Champagne, paru le 15 décembre 2025 dans La Presse.
Doit-on élargir le dépistage du cancer du poumon? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 28 novembre 2025 dans La Presse. Seul un Américain sur trois qui reçoit un diagnostic de cancer du poumon est admissible au dépistage de celui-ci, révèle une nouvelle étude. Cette dernière suggère que le dépistage, actuellement trop restrictif, devrait être ouvert à tout le monde âgé de 40 à 85 ans. Qu'en est-il du Québec? Pourquoi faut-il se préoccuper du cancer du poumon? Le cancer du poumon est le cancer le plus fréquent et la première cause de décès attribuable au cancer au Québec. Plus de 10 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer du poumon chaque année et plus de 6 000 en meurent. Or, ce cancer est souvent détecté à un stade avancé lorsqu'il a déjà commencé à toucher d'autres organes, ce qui réduit fortement les chances de survie des patients, malgré les traitements. Est-ce que seuls les fumeurs sont touchés? Le tabagisme est la cause de plus de 85 % des cancers du poumon. Le nombre d'années de tabagisme et la quantité de cigarettes fumées influence le risque de développer un cancer du poumon. Et ce risque demeure élevé chez d'ex-fumeurs, même s'il diminue avec les années d'arrêt du tabac. D'autres facteurs que la cigarette sont néanmoins à prendre en compte, comme la pollution atmosphérique ou les antécédents familiaux. Les incendies de forêt préoccupent notamment les médecins. Par ailleurs, l'exposition à long terme au radon, un gaz radioactif invisible issu de la décomposition de l'uranium dans le sol et les roches, est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Certains travailleurs sont aussi à risque, comme ceux travaillant dans les fonderies ou l'asphaltage. Qui peut se faire tester? Au Québec, le dépistage du cancer du poumon est ouvert seulement aux fumeurs ou ex-fumeurs qui sont les plus à risque, contrairement par exemple au dépistage du cancer du sein, auquel sont admissibles toutes les femmes entre 50 et 74 ans, quels que soient leurs antécédents. Pour y être admissible, il faut avoir entre 55 et 74 ans, être fumeur ou ex-fumeur, et avoir fumé activement pendant au moins 20 ans, de façon continue ou non. Le dépistage est-il efficace? Une récente étude américaine publiée le 20 novembre dernier dans la revue JAMA Network Open montre que sur près de 1 000 patients ayant reçu un diagnostic du cancer du poumon entre 2018 et 2023, seul un tiers respectait les critères pour être admissible au dépistage. L'étude suggère que le dépistage devrait être ouvert à tous, entre 40 et 85 ans, ce qui permettrait de détecter près de 94 % des cancers. Mais pour Nicole Ezer, pneumologue et directrice du programme de dépistage du COUSUM, ces chiffres ne remettent pas en doute l'efficacité du programme de dépistage pour autant. C'est sûr que des patients vont être manqués, on ne peut pas détecter tous les cas, indique-t-elle. Mais l'efficacité du programme réside plutôt, selon elle, dans le fait de cibler une plus petite population, mais qui est particulièrement à risque de développer un cancer, et surtout de le détecter à un stade précoce. Selon ces chiffres, au Québec, on détecte un cancer du poumon pour 161 patients testés. Sans dépistage, environ 70 % des cancers sont détectés à un stade avancé et 30 % à un stade précoce, ajoute l'experte. Avec dépistage, c'est l'inverse. 85 % des cancers détectés le sont à un stade précoce, donc opérable, ce qui fait une grosse différence pour les patients. Ne devrait-on pas ouvrir le dépistage à plus de gens au Québec? Selon Nicole Ezer, les risques de l'investigation sont trop élevés pour que le dépistage puisse être ouvert à la population en général à cause des faux positifs. Plusieurs personnes pourraient devoir subir inutilement des examens invasifs sans même avoir le cancer. Les risques du dépistage sont vraiment plus élevés que pour le cancer du sein, insiste-t-elle. Même chose pour ce qui est d'abaisser la limite d'âge. Il n'y a pas encore assez de données pour qu'on commence plus tôt le dépistage, souligne-t-elle. Toutefois, le programme de dépistage québécois fait face à un défi de taille. Beaucoup de personnes admissibles ne se font pas tester par ignorance de l'existence d'un tel programme ou par crainte d'être stigmatisées. Les patients ont souvent peur du jugement, explique Nicole Ezer. Mais, par exemple, pour une ex-fumeuse, il est très important qu'elle aille se faire évaluer, même si elle a arrêté de fumer. Une étude menée aux États-Unis et publiée en janvier dans la revue American Cancer Society montre en effet qu'avant 65 ans, plus de femmes que d'hommes sont atteintes par le cancer du poumon. Mais les raisons de cette disparité sont encore floues. C'était « Doit-on élargir le dépistage du cancer du poumon ?» un texte de Chloé Bourquin, paru le 28 novembre 2025, dans la presse.
En attendant Donald, un texte de Jean-François Lisée, publié le 14 janvier 2026 dans Le Devoir. On ne pourra pas dire qu'on ne nous a pas avertis. Pour le président Trump, l'hémisphère en entier est son terrain de jeu, du pôle Nord à la Terre de Feu. Et puisque l'appétit impérial vient en mangeant, on ne peut prévoir, d'une semaine à l'autre, quel pays des Amériques il voudra acheter, avaler ou occuper. Concernant les 55 695 habitants du Groenland, on entend dire que Trump serait prêt à leur envoyer chacun entre 10 000 et 100 000 $. Cela fait au maximum moins que 5,57 milliards de bidous, une aubaine. Appliqué aux 41 millions de Canadiens, ce même taux ferait quand même 4 100 milliards de dollars. Alors, je ne pense pas que nous recevrons nos chèques de sitôt. si Donald Trump s'avisait d'appliquer sa doctrine Donroe chez nous, une petite visite militaire ferait l'affaire. La grande base militaire de Fort Drum, dans l'État de New York, n'est qu'à 2 heures d'Ottawa, quelques minutes à vol d'hélicoptère. Elle abrite, sur près de 450 kilomètres carrés, 3 brigades, soit 15 000 soldats, plus de 3 000 civils, un centre de formation de 80 000 soldats par an, autant de chars et de blindés qu'en compte l'armée canadienne au grand complet, une division d'artillerie, une base d'aviation de combat. Détail potentiellement utile, sa 10e division d'infanterie légère est spécialisée dans le déploiement ultra-rapide. Prendre le contrôle du Parlement, exfiltrer le premier ministre Mark Carney et son épouse pour les emprisonner à Brooklyn et les accuser de trafic de fentanyl et de queue de castor ne prendrait guère plus d'une demi-journée de travail. Il faut savoir que les Américains ont une excellente moyenne au bâton pour le succès des premières heures de leurs opérations militaires à l'étranger. Ce n'est qu'à l'usage, à compter de la 2e semaine, que les choses se dégradent. Leurs enlisements, puis leurs retraites humiliantes d'Irak et d'Afghanistan, sont les derniers exemples en date. Voilà pourquoi, à mon humble avis, notre politique actuelle de défense est parfaitement déficiente. Des budgets gargantuesques sont désormais prévus pour augmenter le nombre de nos soldats, tanks, avions et navires. Contre qui, exactement, ces troupes et cet attirail vont-ils nous protéger? Les Russes ou les Chinois? La doctrine Monroe, puis Donroe, nous garantit que l'armée Yankee va intervenir dès que le premier de ses soldats mettra le pied sur notre partie de l'hémisphère. Alors à quoi bon? La seule menace crédible à notre souveraineté vient du Sud. Son budget alloué à la défense est 20 fois plus élevé que le nôtre. Alors je me répète, à quoi bon? Inspirons-nous plutôt de la proposition formulée au Danemark dans les années 1970 par le Parti du Progrès. Supprimer le ministère de la Défense et l'armée et le remplacer par un répondeur téléphonique répétant un seul message. Nous nous rendons. Dans la version danoise, le message était en russe. Vi overgiver os. Mais nous aurions intérêt à enregistrer le nôtre en anglais. Et nous pourrions dire plutôt « Nous envahir est aisé. Nous occuper est l'enfer. » Il faudrait évidemment garder des troupes pour aider lors de catastrophes naturelles, mais pas besoin pour cela de savoir tirer du bazooka. Redéployons le budget de la défense vers des dépenses productives. Infrastructures, logements, adaptation climatique, réduction de la pauvreté. Mais gardons-en une fraction pour un grand programme de formation permanente de résistance passive, non violente. Nous sommes assez lucides pour savoir que nous ne pouvons empêcher une invasion. Nous sommes assez résilients pour la rendre insupportable. Dans tous les secteurs essentiels à l'occupant, grève du zèle. Appliquer tous les règlements de manière obsessive. Devenir des champions de l'erreur. Fichiers critiques inopinément effacés. Matériel destiné au Québec, de la US Army à Ottawa, dérouté à Nanaimo. Valise des occupants, constamment perdu dans les aéroports. Livraison de la mauvaise taille de commandes diverses. Multiplication des fautes de frappe ou des erreurs de classement dans les documents destinés à l'occupant. Et mon préféré, envoi fréquent de correspondances et d'autres documents en français. Ou mieux encore, dans une des langues autochtones. Je comprends que l'intelligence artificielle rend cet obstacle facilement surmontable. Mais cela reste irritant. De même, le GPS enlève une partie de son efficacité à la pratique de résistants de pays de l'Est de changer les noms de rues et les indications de direction. Mais cela fait toujours plaisir. Il faut bien sûr embaucher nos meilleurs pirates informatiques et les former pour qu'ils harcèlent les systèmes et les bureaux du futur occupant. Il y a aussi le mot d'ordre donné pour que les automobilistes provoquent spontanément des embouteillages lorsqu'on sait qu'un convoi d'officiers doit aller d'un point A à un point B. Sans compter les escouades de poses de pommes de terre dans les tuyaux d'échappement et de colle dans les serrures. L'hiver est notre ami. Il faut préparer des équipes qui sauront réparer les systèmes de chauffage des occupants pour qu'ils tombent en panne fréquemment, de préférence en début de nuit. Il y a aussi le traitement de glace. Ignorer totalement l'occupant, lui servir, après une longue attente au restaurant, des plats malencontreusement trop épicés. Détourner le regard, ne jamais engager la conversation. Attention, cela n'est pas qu'une stratégie de résistance. C'est aussi une stratégie de dissuasion. Si l'ennemi potentiel est convaincu que la population locale a reçu un entraînement efficace, que des brigades dormantes de perturbation sont formées dans chaque quartier, qu'un réseau clandestin de coordination est prévu et rodé, et rien ne nous interdit d'exagérer l'ampleur de notre préparation, peut-être se dira-t-il qu'après tout, mieux vaut nous laisser tranquilles. Une version précédente de cette chronique a été modifiée. Si les 55 695 habitants du Groenland recevaient chacun entre 10 000 et 100 000 $, cela ferait au maximum moins que 5 057 milliards de dollars et non pas 56 millions. C'était En attendant Donald, un texte de Jean-François Lisée, publié le 14 janvier 2026 dans Le Devoir.
Un toit abordable ou son animal de compagnie. Le véritable dilemme des locataires. Un texte de Alex Sinam Bogmis, publié le 8 janvier 2025 sur le site de Radio-Canada. Entre les règlements sans animaux du logement social et les loyers prohibitifs du secteur privé, de nombreux Saskatchewanais doivent choisir entre un toit abordable et leur compagnon fidèle. Valérie Voloshen s'apprête à prendre sa retraite cet été. Pour vivre dignement avec un revenu fixe à Saskatoon, elle doit emménager dans un logement social. Toutefois, un obstacle de taille se dresse devant elle. Buddy, son chat. Le logement auquel elle a droit interdit les animaux de compagnie. Aujourd'hui, Madame Voloshen doit faire un choix difficile. Rester en Saskatchewan et se séparer de son chat ou quitter sa famille pour s'installer au Manitoba, où les règles sur les animaux dans les logements subventionnés sont plus souples. Je ne veux pas le laisser partir, mon Dieu, cela me briserait le cœur. Le cas de Madame Voloshen n'est pas isolé. Dans un marché locatif de plus en plus tendu, Les clauses d'interdiction et les frais supplémentaires poussent de nombreux propriétaires d'animaux au pied du mur. Sandra Archibald, directrice du New Hope Dog Rescue, une organisation à but non lucratif qui s'occupe du sauvetage et du placement de chiens dans le besoin, constate ses conséquences au quotidien. Sur 10 demandes de prise en charge que nous recevons, de 30 à 50% sont dues à des propriétaires incapables de trouver des conditions de logement adéquates. Pour Sandra Archibald, voir des familles séparées de leurs animaux pour des raisons de logement est l'une des choses les plus difficiles à vivre. Une raison de se lever le matin. Au-delà de l'animal, c'est la santé humaine qui est en jeu. Colleen Handel, chercheuse à l'Université de la Saskatchewan, souligne que le lien humain-animal est vital, surtout pour les aînés ou les personnes vivant seules. Souvent, cet animal est celui à qui ils parlent, celui qui leur donne une raison de se lever le matin ou d'aller chez le médecin. Cet animal leur donne une raison de vivre. Elle note que les politiques actuelles ne tiennent pas suffisamment compte de l'impact physique, mental et spirituel d'une séparation forcée. Pour ceux qui réussissent à trouver un logement acceptant les animaux, le parcours reste éprouvant. Claire Paulson, qui vit avec 4 chiens pour l'aider à gérer sa dépression, décrit ses recherches frustrantes. Sur 5 à 7 demandes, une seule acceptait de considérer un animal. Elle a finalement trouvé une maison, mais après avoir dû vendre ses chiens au propriétaire. C'est presque comme un entretien d'embauche pour vos animaux, ironise-t-elle. Aujourd'hui, elle paie un supplément de $25 par mois pour ses compagnons et accepte de vivre dans une maison moins moderne, car rester avec ses chiens est sa priorité absolue. Des politiques locales disparates. Interrogé sur cette situation, le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan a précisé que si des politiques provinciales existent pour les animaux d'assistance, ce sont les autorités locales de logement qui sont responsables de développer leurs propres règlements concernant les animaux domestiques. Cette flexibilité permet aux autorités de s'adapter aux besoins de leur communauté. Mais elle crée aussi une incertitude pour des locataires comme Valérie Woloshin. Celle-ci tente désormais de faire reconnaître Buddy comme chat de soutien émotionnel, dans l'espoir que cela lui ouvrira les portes d'un logement social sans avoir à sacrifier son compagnon. Pour faciliter la discussion avec le propriétaire, les défenseurs des animaux suggèrent de constituer un curriculum vitae pour animaux, incluant des références, les dossiers vétérinaires et les preuves de vaccination. Ils recommandent également des rencontres directes pour permettre au propriétaire de voir l'animal et de constater son bon comportement, ainsi que de faire preuve de transparence dès le départ, soit de ne pas cacher l'existence de l'animal et d'ouvrir le dialogue sur le sujet. C'était « Un toit abordable ou son animal de compagnie, le véritable dilemme des locataires », un texte de Alexis Nambogmis, publié le 8 janvier 2025 sur le site de Radio-Canada.